La recherche d'une vengeance est parfois un dérivatif au chagrin. Je pourrais bien sûr, pensait Guccio, exiger immédiatement le remboursement de la créance, et peut-être cela les mettrait-il en telle difficulté qu'il leur faudrait renoncer aux noces. Mais le procédé lui parut d'une inadmissible bassesse. Avec des bourgeois, il en aurait peut-être usé ainsi. Avec des gentilshommes qui prétendaient l'écraser de leur noblesse, il cherchait une réponse de gentilhomme. Il voulait leur prouver qu'il était plus grand seigneur que tous les Crécets et tous les saints venants de la terre. Ce souci l'occupa pendant la fin du repas. Comme on disposait les desserts, il détacha soudain son reliquaire et le tendit à la jeune fille en disant « Voici, belle Marie, le cadeau qu'il me plaît de vous offrir pour vos noces. C'est la reine Clémence, oui, c'est la reine de France qui me l'a elle-même attachée au col pour les services que je lui ai portés et l'amitié dont elle m'honore. Une relique de Saint Jean-Baptiste y est enfermée. Je ne pense pas vouloir jamais m'en séparer. Mais il semble qu'on puisse se défaire sans peine de ce qu'on tenait pour le bien le plus cher. Que ceci donc vous protège, ainsi que les enfants que je vous souhaite d'avoir avec votre gentilhomme d'Artois. » Il n'avait trouvé que cette manière, à la fois de témoigner son mépris et de prouver aux Crécets qu'ils avaient fait fi en sa personne d'un beau parti. C'était payer cher l'occasion d'une phrase. Décidément, envers ces gens qui n'avaient pas trois deniers vaillants, les grands mouvements d'âme de Guccio se soldaient toujours par un geste coûteux. Venu pour prendre, il s'en allait immanquablement en ayant donné. Marie eut grand-peine à ne pas fondre en larmes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle approcha le reliquaire de ses lèvres, mais Guccio s'était déjà détourné. Prétextant sa blessure récente et la fatigue du voyage, il prit congé sur le champ. Appela son valet, passa son manteau fourré, sauta en selle et sortit de la cour de Crécet avec la certitude qu'il n'y remettrait plus les pieds. « À présent, il nous faudrait tout de même écrire au cousin de Saint-Venant, » dit Dame Eliabelle à ses fils lorsque Guccio eut passé le portail. Rentré au comptoir de Naufle, Guccio ne desserra pas les dents de la soirée. Il se fit présenter les livres et feignit de s'absorber dans l'examen des comptes. Le commis Ricardo comprit bien que les affaires de son jeune maître avaient rencontré quelques traverses, mais il jugea prudent de s'abstenir d'aucune question. Guccio passa une nuit sans sommeil dans l'appartement qu'on lui avait préparé avec tant de soin pour un long séjour. Maintenant, il regrettait son reliquaire, il regrettait sa décision de se fixer à Naufle, il regrettait ses lettres, il regrettait tout. « Elle ne méritait pas tant, je ne suis qu'un sot. Et l'oncle Spinello, comment va-t-il prendre mon retour ?» se demandait-il en s'agitant entre les draps rugueux. « Car je ne demeurerai pas ici un jour de plus, avec une telle humiliation. Je n'en ferai jamais d'autre. Et le sort vraiment m'est contraire. Je pouvais revenir dans l'escorte de la reine et obtenir une charge dans sa maison. Je manque le quai pour avoir voulu sauter trop vite et me voilà en hospice pendant 6 mois. Au lieu de rentrer à Paris et d'y travailler à ma fortune, je me précipite en ce bourg perdu afin d'épouser une fille de campagne dont je me monte la tête depuis bientôt 2 ans, comme s'il n'était d'autre femme à travers le monde. Et je la trouve engagée à un niais de sa race. Beau travail. » Au matin, épuisé de regrets, de rancune et d'insomnie, il fit boucler son bagage et seller son cheval. Il avalait un bol de soupe avant de partir, lorsque la servante qu'il avait vue la veille à Crécet se présenta au comptoir et demanda à lui parler sans témoin. Elle était chargée d'un message. Marie, qui avait réussi à s'échapper pour 1 heure, attendait Guccio à mi-chemin entre Naufle et Crécet, au bord de la Maudre. « À l'endroit que vous savez bien, » ajouta-t-elle. Guccio comprit qu'il s'agissait du clos de Pommiers, au bord de la rivière, où Marie et lui avaient échangé leur premier baiser. « Dites à Madame Marie que c'est de sa part un soin inutile, car pour la mienne, je ne souhaite plus la rencontrer. » « Madame Marie fait peine à voir, » dit la servante. « Je vous jure, messire, que vous devriez aller la retrouver. Si l'on vous a offensé, cela ne vient point d'elle. » Sans daigner répondre, il se mit en selle et s'engagea sur la route. « Le quai de Marseille, le quai de Marseille, que cela me serve de leçon, » se disait-il. « Ah, cette sottise, Dieu sait ce qui m'attend encore si je la revois. Qu'elle mange donc ses larmes toute seule, s'il lui vient envie de pleurer. » Il parcourut ainsi 200 toises en direction de Paris. Puis, brusquement, devant son valet stupéfait, il fit volter son cheval, le mit au galop et coupa à travers champs. En quelques minutes, il fut au bord de la Maudre. Il aperçut le clos et, sous les pommiers, Marie qui l'attendait.